Chers amis, bonjour. Nous allons essayer de parler vite fait des principales lois concernant la journée de Pourim. Évidemment, juste avant Pourim, nous avons le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, le Libouche, qui était un décisionnaire, essentiel dans Shulchan Aruch, qui était un Rishon, il nous dit pourquoi? Parce qu'on va accomplir ce qu'ont fait les Juifs à cette époque-là. Ils ont jeûné et ensuite il y a eu la Simra. Mais nous allons faire de même. Nous allons jeûner, nous allons prier et ensuite on pourra festoyer. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va pouvoir, en voulant recevoir le bien, on va évacuer ainsi le mal. Le Maguide du Beth Yosef, c'est-à-dire c'était un ange qui venait voir le Beth Yosef, qui lui indiquait ce qu'il faudrait faire, etc. Il est venu, il lui a dit comme ça à propos du jeûne d'Esther. Il a dit pourquoi on le fait? Parce que on risque le fait que l'on va manger, boire, de fauter et de réveiller dans un certain sens l'accusateur. Alors pour éviter ça, on va jeûner, et c'est une sigula justement de se protéger justement de cet accusateur, et par les sirot, le pardon, la tfila, etc., on va réveiller le mérite de Mordechai et d'Esther à ce moment-là. Alors concernant le Machzit HaShekel, le Shulchan Aruch, il nous rapporte comme ça, entre autres le Rama, il nous rapporte dans le chapitre Tavret Tzadik Dalet 674, que au moment de Mincha de Purim, on va donner ce qu'on appelle le Machzit HaShekel, cette fameuse pièce que l'on donnait à l'époque au Beth Amikdash. On ne dira pas je donne le Machzit HaShekel, mais je donne Zecher, en souvenir au Machzit HaShekel qu'on donnait au Beth Amikdash. Alors évidemment, on le donne au moment de la Tfila. C'est une sorte de tzedaka qui va être mechaper, qui va dans un certain sens expier les fautes, et ça fait partie de toute cette accomplissement qu'on va faire veille de Pourim. Alors comme ça c'est rapporté entrant dans le Shulchan Aruch, et d'ailleurs le Rav Eliashiv il le rapporte qu'il vaut mieux donner comme ça trois pièces. Alors en fait on doit donner combien? On doit donner ce qui est venu dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire à peu près 9,6 grammes d'argent. Donc il faut faire le calcul en fonction du gramme, un gramme d'argent, combien il vaut aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui il vaut 7 euros, peu importe. Vous faites le calcul, un gramme d'argent, combien il vaut, et vous le multipliez par 9,8, 9,6 grammes, qui est la fameuse marque. On donne trois pièces, en trois pièces. C'est-à-dire c'est ce 9,6 grammes, on le donne en trois pièces. On donne pas un chèque, il vaut mieux pas donner un chèque, il vaut mieux donner des pièces. Ou en tout cas de l'argent. Le minhag des Sfaradim d'ailleurs, c'est de donner Machzit HaShekel, pardon, d'ailleurs c'est 9,6 grammes, à toute la famille, c'est-à-dire aux enfants, et voire même la femme qui est enceinte, le bébé qui Bezrat Hashem va sortir le château, on donne aussi pour lui en tant que kapara, parce que c'est dit, les rappeurs à la c'est pour expier vos fautes. Donc toute personne, vous allez me dire, il n'a pas fauté. Comme ça, c'est rapporté, c'est aussi une ségoula pour la bonne vie de l'enfant, etc. Même chose pour les enfants, évidemment, pour la femme. Donc le mari donnera. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, quand on doit donner machatsi shekel, c'est la moitié d'un shekel. Donc on va donner une moitié, d'un certain sens, à cette mitzvah du machatsi shekel. Et le reste, puisque c'est 9,6 grammes, on l'a partagé en trois, le reste, on le donnera en tzedaka pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, pour des pauvres et des associations, etc. Évidemment, caritatives selon les associations qui étudient évidemment la Torah, qui sont dans la Torah. D'après certains, comme le Rav Karlitz, les femmes n'ont pas besoin de donner Machzit HaShekel, mais d'après le Mishavura, d'après le Kafar Chaim, même les femmes, comme on a dit, devront donner Machzit HaShekel, ou en tout cas le mari donnera pour elles le Machzit HaShekel. En ce qui concerne la Megillah, la lecture de la Megillah, il faut bien savoir que la lecture de la Megillah, il faut écouter et vraiment être concentré dans l'écoute de la Megillah. Alors, il y a sur ça beaucoup de lois. Si par exemple la personne ne l'a pas écouté un mot, elle n'a pas écouté même une lettre, etc., et qu'elle n'arrive pas à le rattraper, elle n'est pas quitte de la lecture de la Megillah. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un silence de plomb dans la synagogue peau pour pouvoir écouter la Megillah. Celui qui a une Megillah qui est cachère, alors il pourra, à la rigueur, se rattraper dans la Megillah qui est cachère. Mais celui qui n'a pas une Megillah cachère, il a un chumash. Alors d'après beaucoup de décisionnaires, il ne pourra pas rattraper sur un chumash sur des feuilles, mais que sur du parchemin. Quelqu'un qui se met à rêver pendant la lecture de la Megillah, mais il sait qu'il suit, et il sait plus où il en est. Enfin, il sait pas où il en est. Il suit, il voit qu'il est, mais il est pas dedans. Alors, d'après certains, une grande partie des dictionnaires disent qu'il est quitte de la lecture de la Megillah tant qu'il suit dans le truc, même s'il rêve, il peut penser à autre chose, mais il écoute comme un automate. Et ça s'appelle ça, malgré tout, qu'il est quitte de la lecture de la Megillah. Pour ce qui est de celui qui hésite, il ne sait pas s'il a écouté tous les mots de la Megillah. Si c'est le soir, on allège. Mais le matin, comme c'est d'ivrei Kavala, comme c'est beaucoup plus grave, la lecture des Megillah le matin, donc là, il faut faire très très attention d'être bien concentré au moment de la lecture de la Megillah pour être quitte de la mitzvah de la lecture de la Megillah. Celui qui a une Megillah cachère, alors il peut lire évidemment en même temps que le Shaliat Tzibur. Il vaut mieux, en fait, qu'il écoute du Shaliat Tzibur et qu'il suive simplement sur la Megillah, et surtout pour ne pas déranger ceux qui sont à côté, et en tout cas, évidemment, le Shaliat Tzibur. Lorsqu'on est en public, enfin dans un minyan, celui qui va faire la bracha de la Megillah, il doit le faire debout, et les autres, ils peuvent rester assis. Mais lorsqu'on est seul avec quelqu'un ou dans un appartement, c'est bien que tout le monde, dans la mitzvah, c'est que tout le monde se lève en même temps que le Shaliat Tzibur, enfin celui qui va lire la Megillah, au moment des brachot. Par contre, si la personne, elle va lire à des femmes, il n'a pas besoin de se lever pour faire la bracha, il peut rester assis. Même si celui qui lit la Megillah, il a déjà lu la Megillah, il a déjà fait la bracha ailleurs, et que ceux à qui il va rendre quitte, ils n'ont pas eu la possibilité de lire la Megillah, il a évidemment l'obligation de dire la bracha pour rendre quitte ceux qui sont en face. Évidemment, celui qui lit la Megillah, il n'a pas le droit de parler depuis le début jusqu'à la fin. D'ailleurs, même ceux qui entendent la Megillah n'ont pas le droit de parler pendant toute la lecture de la Megillah. Alors la question s'est posée dans certaines communautés, est-ce qu'un Ashkenaz peut lire pour des Sfaradim, est-ce qu'un Sfarad peut lire pour des Ashkenazim? Évidemment qu'a priori, il vaut mieux que ce soit un Sfarad qui lit pour les Sfaradim, il y a un Ashkenaz qui lit pour les Ashkenazim, mais si c'est fait d'une autre façon, évidemment on est quitte de la lecture de la Megillah. On a posé la question si la lecture de Megillah, la personne, par exemple une personne qui est malade, on lui dit, regarde, tu peux venir, il demande, est-ce que je peux venir soit le soir, soit le matin, mais je peux pas me déplacer. Alors on lui dira qu'il vaut mieux qu'il vienne le matin. Pourquoi? Parce que entre le Shari de Shuvah dans le Shulchan Aruch, il rapporte que le soir c'est seulement d'Ivrei Rabbanan, et que même s'il écoute et qu'il n'a pas été mis de Kavanah, il n'a pas eu l'intention à ce moment-là, il est quitte. Tandis que le matin, c'est d'Ivrei Kabbalah, et donc il est obligé de se concentrer, et donc il vaut mieux évidemment écouter la Megillah dans un cas exceptionnel le matin que le soir si la personne ne peut pas se déplacer. Le Sir Hazeshon, il y a un endeuillé, c'est lui qui a l'habitude de lire la Megillah. Alors évidemment, il y a juste un seul problème, c'est qu'au moment où on doit faire Shehriyanu, c'est pas lui qui fera Shehriyanu avant la lecture de la Megillah. Il donnera à quelqu'un d'autre de lire cette bracha Shehriyanu. La question s'est posée aussi si quelqu'un il a des appareils auditifs. Alors là, c'est un autre problème. Si l'appareil auditif il change la tonalité ou sans appareil, il n'entend rien du tout. Alors là, c'est un problème. La kriya de Megillah en face de lui, elle ne servira pas grand-chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de possibles, le Rav Eliashiv, etc. Il dit que c'est pas une, il ne servira à rien. Et il faudrait qu'il lise lui-même en même temps que celui qui est en train de lire la Megillah. Et il vaut mieux qu'il ait, évidemment, dans ce cas-là, une Megillah qui soit cachère, c'est-à-dire sur du parchemin. Maintenant, si il arrive à écouter même sans les appareils, que c'est juste pour augmenter le son, alors certains disent qu'il n'y a pas de problème, il peut être quitte de la voix du Shaliat Tzibur. Alors, en ce qui concerne les Mishloach Manot et Matanot Nivonim, Mishloach Manot, c'est comme son nom l'indique, Mishloach, c'est-à-dire donner, envoyer, Manot, des plats à un ami, le Réou, à son ami. Donc c'est une seule mitzvah. Je prends un panier dans lequel je mets deux sortes de choses différentes, parce que c'est au pluriel manot, et je donne à quelqu'un, et j'accomplis la mitzvah de Mishloach Manot. En général, on évite de donner à son ami qu'on aime le plus, on donne à celui qu'on n'aime pas trop, justement pour les harbot, réout, pour augmenter la fraternité. Manot Levionim, alors là sur prière, on devra minimum donner à deux personnes, deux indigents, deux personnes qui n'ont pas les moyens, et faire la mitzvah de donner de la tzedaka. Combien? Alors justement, aujourd'hui on a l'habitude de donner entre 3 euros et un plat, c'est-à-dire à peu près 15 euros, c'est ce qu'on donne en général à un pauvre, d'accord? Ce que l'on donne, c'est donc la possibilité dans la journée de donner cet argent là pour que ce pauvre là puisse acquérir et s'acheter ce jour là des nourritures, etc. Alors évidemment on peut donner à quelqu'un qui se charge de donner à la tzedaka. Évidemment cette tzedaka là il faut le donner le jour même, il peut pas donner le lendemain. S'il donne le lendemain, alors il n'a rien accompli du tout. Quelqu'un qui va dire bon je vais envoyer le chèque, il recevra dans la semaine. Ça ne vaut rien du tout, la mitzvah, elle est le jour même. Pourquoi? Parce que le hani, le pauvre, il va être content, il va aimer sa mère, il faut le rendre joyeux, donc on le donne. Alors c'est pour ça que si par exemple je donne un chèque à quelqu'un qui s'occupe de ramasser, et lui il dit c'est pas grave, de toute façon moi je vais donner de mon argent, et le chèque je l'encaisserai, etc. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors il faut savoir que les femmes, la plupart des décideurs disent qu'elles ont une obligation de faire aussi de la tzedaka à des pauvres, de donner à des pauvres des institutions. Elles peuvent donner à l'institution par exemple